18h.
Il dit qu'il veut pas aller à l'affrontement. Pour l'instant, il fait tout pour que la mobilisation dure et que les grèves durent. Donc c'est lui qui est responsable de ce qui se passe en ce moment.
La réponse de Philippe Martinez, le patron de la CGT, à Édouard Philippe lors des manifestations des chômeurs et des précaires cet après-midi à Paris.
La grève qui se poursuit à la SNCF, à la RATP, trafic très réduit. Demain, un TGV sur 6, un train de banlieue sur 8 et 14 lignes de métro fermées sur 16.
Les poubelles qui débordent en Corse et les centres de stockage sont à saturation.
Ah bah c'est terrible, parce qu'il va y avoir des rats bientôt, hein. C'est affreux. Puis tous les gens qui passent ici mettent leurs déchets aussi.
Il y a 2 ans, Johnny Hallyday était enterré sur l'île de Saint-Barthélemy. Depuis, quotidiennement, un homme veille sur sa tombe.
C'est très beau, c'est très beau.
Non bah c'est sûr qu'elle est très très bien entretenue pour que ça dure.
On est ensemble jusqu'à 20h, bienvenue à tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les principaux syndicats de cheminots maintiennent donc la pression avant les annonces mercredi d'Edouard Philippe qui dévoilera le texte global de cette réforme. Ils ont appelé ce matin à l'amplification de la mobilisation contre la réforme des retraites, Fabienne.
En gros, pas de question de cesser la grève avant le retrait du projet par point du gouvernement, a dit le responsable de la CGT cheminots, qui appelle donc à un renforcement de la mobilisation lundi. Et dans la manifestation de chômeurs et de précaires organisée à Paris par la CGT pour le collectif donc des précaires, cette réforme des retraites était dans toutes les têtes, Jean-Jacques Héry.
Oui, la preuve, hein, voilà ce que l'on pouvait entendre. Voilà ce que l'on pouvait entendre d'abord comme slogan.
Guerre au chômage !
Au chômage !
Guerre au chômage !
Une guerre au chômage, pas aux chômeurs, qui rapidement s'est transformée pour devenir...
Tous ensemble, grève générale.
Grève générale, évidemment, pour les 300 manifestants, cela faisait écho au mouvement social actuel contre la réforme des retraites. Précarité, retraite en danger, les deux sont liés pour Juliette Mangin, secrétaire du comité des travailleurs privés d'emploi et précaires de Lyon.
Les personnes précaires vont subir de plein fouet cette réforme-là des retraites parce que les moments où on aura été privé d'emploi seront vraiment plus du tout pris en compte en fait. Il faudra du coup qu'on achète nos points ou alors qu'on prenne des mutuelles privées. Nous, ce qu'on dit, c'est que le but de cette réforme, c'est de pousser vers les minima sociaux, soit le RSA pour tous en fait.
Quant aux promesses de dialogue social du Premier ministre Édouard Philippe, personne n'y croyait dans le cortège, à commencer par Philippe Martinez, oui, le secrétaire national de la CGT, qui était présent cet après-midi.
Il dit qu'il veut pas aller à l'affrontement. Pour l'instant, il fait tout pour que la mobilisation dure et que les grèves durent. Donc c'est lui qui est responsable de ce qui se passe en ce moment.
Philippe Martinez, qui en a profité aussi pour rappeler à nouveau son opposition à un système universel de retraite. L'universalité, ça ne veut rien dire, a-t-il dit. Ce qu'il faut, c'est avant tout un système solidaire.
Jean-Jacques Héry, notez qu'à Nantes, ce sont 2800 personnes qui ont manifesté contre la réforme des retraites et la précarité selon la préfecture. Manifestation tendue, marquée par des heurts avec les forces de l'ordre, avec la présence de 500 radicaux d'ultra-gauche et de Black Blocs.
Et dans un instant, c'est Thierry Nier, secrétaire général adjoint de la Fédération CGT Cheminots, qui nous en dit plus sur Europe 1. Effectivement, donc, Fabienne, la grève continue à la SNCF et à la RATP ce week-end. Cela se traduit, Caroline Baudry, par un trafic encore très réduit.
Oui, pas d'amélioration en vue dans les transports. Un TGV sur 6 circulera ce week-end. Des lignes TER presque à l'arrêt, puisque 1 ou 2 trajets sur 10 sont assurés essentiellement par des bus. En région parisienne, la SNCF fera circuler 15% des transiliens. Côté RATP, 9 lignes de métro sont fermées ce soir. Demain, ce sera pire. Toutes les lignes, 14 lignes de métro seront fermées, à l'exception des lignes automatiques 1 et 14. Un service minimum sera assuré sur le RER B et contrairement à la semaine où la circulation était concentrés dans les heures de pointe. Les rames circuleront uniquement entre midi et 18h. Les usagers sont invités à se rabattre sur les bus et les tramways dont plus de la moitié circuleront. Résultat, jusqu'à lundi compris, la SNCF et la RATP recommandent de limiter ou de reporter les déplacements.
Merci Caroline Baudry. Dans l'actualité également de ce 7 décembre, Willy Bardon, il est toujours hospitalisé ce soir à l'hôpital d'Amiens en service de réanimation.
Willy Bardon, c'est cet homme qui a été condamné à 30 ans de prison hier soir par la cour d'assises de la Somme pour le viol, l'enlèvement et la séquestration d'Élodie Kulik, une banquière de 24 ans. Et c'est après l'énoncé du verdict qu'il a tenté de mettre fin à ses jours en avalant un produit. Et ce soir, Maximilien Carlier, on n'en sait plus sur ce qu'il a ingéré.
Oui, effectivement, c'est du thémic, selon le procureur d'Amiens, un pesticide foudroyant, réglementé. Il est utilisé par des cultivateurs ou horticulteurs. En fait, il permet d'empoisonner les animaux et il se présente sous forme de granulés. Willy Bardon en avait dans sa poche quelques minutes après le verdict. Il en a avalé, puis a bu d'un trait son verre d'eau. Direction l'hôpital ensuite, où il est toujours dans le coma. Alors il y a cette question qui se pose maintenant, comment Willy Bardon a-t-il pu entrer au tribunal avec ce pesticide? Y a-t-il eu un défaut de vigilance? L'accusé comparaissait libre, certes, mais il a été fouillé minutieusement dès son arrivée. D'ailleurs, une enquête a été ouverte par le parquet d'Amiens. D'après son entourage, Willy Bardon voulait en finir en cas de condamnation. Tout au long du procès, il n'a cessé de clamer son innocence.
Maximilien Carlier notait que ses avocats ont décidé de faire appel de la condamnation de la cour d'assises de la Somme.
Il est 18h05, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
Un triste spectacle maintenant en Corse depuis plusieurs semaines, Fabienne. Il n'est pas rare de voir des sacs poubelles éventrés d'où s'échappent des ordures.
Rien à voir avec une grève des éboueurs, Wendy. Si les poubelles corses débordent, c'est que l'île n'a pas la capacité de stockage nécessaire et la situation risque d'empirer car les deux centres pour éliminer les déchets arrivent à saturation. Un bras de fer s'est engagé entre la préfète et l'exécutif de Lille, mené par les nationalistes. Ce sont d'ailleurs des habitants excédés que notre correspondant Frédéric Michel a rencontrés.
Ah bah c'est terrible, parce qu'il va y avoir des rats bientôt. Hein. C'est affreux. Puis tous les gens qui passent ici mettent leurs déchets aussi.
De Bastia à Ajaccio, de la région de Sartène à la Balagne, partout, des poubelles qui s'entassent. Bien souvent, les sacs sont éventrés, les déchets tapissent le sol. La Corse n'a plus de capacité pour stocker. Si rien n'est fait, le déficit sera de 80 000 tonnes de déchets l'an prochain, 110 000 tonnes en 2021. Josiane Chevalier, la préfète de la région Corse.
On est au pied du mur depuis un certain temps déjà. Moi, j'appelle de mes voeux à une solidarité territoriale pour qu'on arrive, conformément au plan de la collectivité, à pouvoir créer deux autres centres.
Et les besoins sont tels que deux centres supplémentaires ne résoudraient rien. Critiqué pour la lenteur de mise en œuvre de son plan d'action, l'exécutif corse assure que des décisions seront prises, mais que l'urgence est de gérer les 4 années de transition. François Sargentini.
Cette période transitoire, on ne pourra la régler qu'à partir des structures existantes. C'est pour ça que nous pensons, nous, qu'il faut entamer un dialogue avec les communes où sont situées les structures aujourd'hui de stockage des déchets.
Et la crainte pendant cette période de transition, c'est de voir encore se multiplier les dépôts sauvages.
Frédéric Michel, en Corse pour Europe 1.
Il y a 2 ans, Johnny Hallyday s'éteignait dans sa maison de Marne-la-Coquette en banlieue parisienne.
Et c'est loin de là, à plus de 7000 km, dans le petit cimetière de Lorient sur l'île de Saint-Barthélemy, face à la mer, qu'il avait décidé d'être enterré. Depuis, des fans n'hésitent pas à faire le voyage pour rendre un dernier hommage à leur idole sur une tombe qu'un homme entretient avec soin chaque jour et en musique, comme a pu le constater notre envoyé spécial Pierre Herbulot.
Malgré le soleil torride, les embruns et parfois les pluies torrentielles ou les vents violents, la tombe en marbre blanc paraît presque neuve dans le cimetière qui borde la mer.
C'est magique, c'est la tombe de Johnny. Voilà.
Grâce à celui qui met la musique sur son téléphone, Jean-Pierre, employé par Laetitia qui préfère garder le silence, tous les jours il bichonne la tombe pendant 1 heure. Matin et soir, il frotte le marbre, change les fleurs, aplanit le sable et gère les cadeaux des fans comme celui de Jackie.
Oui, on a apporté un galet également, avec nos deux prénoms et la date d'aujourd'hui.
Son galet, Jean-Pierre le met à la place d'un autre déposé quelques mois plus tôt et qui commence à s'effacer. Ce souci du détail ravit les fans de Johnny, eux qui ont traversé l'océan pour lui rendre hommage.
C'est pas jeté n'importe comment, c'est très beau, c'est très beau.
Non, ben c'est sûr qu'elle est très très bien entretenue, pourvu que ça dure.
Pour des gens qui ont duré, ils ont duré de leur vivant, ils ont duré durant leur mort, et voilà, et donc ça a duré.
Elle fait du beau boulot, la Laetitia, c'est bien.
À la nuit tombée, des guirlandes éclairent la tombe, mais pas seulement. Jean-Pierre tient les comptes, ce soir-là, il a allumé sa 50 000e bougie. Sur l'île de Saint-Barthélemy, Pierre Herbulot, Europe 1.
Et puis un numéro pour terminer ce journal, là, ne pas oublier Wendy, je sais que vous le connaissez par cœur, le 36-37. Voilà, pour donner au Téléthon, l'AFM et la recherche ont besoin de vous. Pour l'instant, le compteur affiche près de 27 millions de dons.
Et bien là, on suivra évidemment en temps réel le niveau des dons et on en parlera dans toutes nos éditions d'infos. Merci Fabienne Lemoyle, à très bientôt sur l'antenne d'Europe 1. On vous attend. Voici le ciel, c'est ça Marlène?
Oui, augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
L'hiver est bien installé côté température, Valérie Darmon, et le temps de demain est quasiment le même qu'aujourd'hui.
Absolument, et dans le nord-ouest, après les pluies de la nuit et du tout début de matinée, vous retrouverez un temps très changeant, alternant éclaircies et quelques averses, avec un vent qui va se renforcer en bord de mer. Fort coup de vent d'ailleurs annoncé à 110-120 km/h pour la soirée de ce dimanche et 80 à 100 de l'intérieur de la Bretagne à la Normandie. La perturbation, la nouvelle hein, qui va arriver demain matin, circulera rapidement, donnant des pluies. Si vous êtes entre les Hauts-de-France et la Champagne, ainsi que sur les Ardennes, et ce front pluvieux est suivi d'un temps variable, avec une alternance d'éclaircies et d'averses dans l'après-midi, parce qu'il est rapide. Il pleuvra aussi en Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. Il neigera en abondance sur la Savoie et la Haute-Savoie au-dessus de 1400 mètres. Et dans le sud-ouest, vous avez des pluies le matin qui vont se diriger vers les Pyrénées l'après-midi. Les températures sont stationnaires.
Merci Valérie Darmon. À tout à l'heure 18h30 pour faire un nouveau point sur Europe 1. À suivre dans le Grand Journal du soir, Wendy.
La situation dans les trains, dans les RER, dans les métros, la perspective de 3 nouvelles journées de galère pour les usagers. Les grévistes sont très motivés. Vous allez entendre l'un d'entre eux, secrétaire général adjoint de la CGT Cheminot, Thierry Nier, nous répond.
Europe 1, le Grand Journal du soir.
Wendy Bouchard.